Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. Quand on aime, on ne compte pas. Il vous a fallu attendre 50 ans avant d'épouser l'homme de votre vie. Un amour sans la moindre fausse note que vous avez choisi de prolonger à travers la musique. Bonjour, Macha Meryl.
Bonjour, c'est très gentil ce que vous venez de dire, Jacques, vraiment.
Et oui,
et très juste en plus.
Car on va parler justement de cette vie avec Michel Legrand. Il a fallu attendre 50 ans et vous la prolongez car vous créez un prix Michel Legrand dont on va reparler tout à l'heure. Alors, le principe des clés d'une vie, vous le savez, vous êtes déjà venu, c'est de partir de certaines dates. La première date, elle vous concerne directement, c'est le 2 février 1962, la date de la sortie de ce film. Adorable menteuse. Car c'est un film symbole de la nouvelle vague de Michel Deville.
C'est vrai.
Vous avez tourné La main chaude de Gérard Horry avant. Et puis là, c'est vraiment une nouvelle vie. C'est un film important.
Vous savez, on ne met pas Michel Deville à sa juste place. Oui. Parce qu'il a vraiment été un pré-nouvelle vague. Il a surtout parlé beaucoup de l'indépendance des femmes.
Oui.
De l'insolence des femmes. Et ça, c'était assez nouveau quand même. On était deux petites garces quand même. Aussi bien Marina Vladi que moi. Mais finalement, ça préfigurait déjà de tout ce qu'il allait se passer par la suite. Avec 68, et je considère 68 comme un mouvement féminin, et qu'à la suite de l'avènement de la pilule, nous avons pris le pouvoir.
Voilà. Alors, Macha Meryl, juste avant, vous êtes aux États-Unis pour des cours à l'Actor Studio, et parallèlement, Michel Legrand, lui, est en URSS, où il donne des concerts de jazz, ce qui est une première en Russie, à Moscou et à Leningrad. Et puis, finalement, il y a une rencontre qui se fait, parce que ce film Adorable Menteuse et Michel Legrand, qui a fait les Parapluies de Cherbourg, ça donne un festival. Parapluies de Cherbourg, c'est souvenez-vous.
Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi.
Vous pourriez jamais vivre sans toi, oui. Vous connaissez ce film, vous l'aviez vu avant de connaître Michel Legrand?
Je l'avais vu à sa sortie en France, ça avait été quand même un énorme succès. Et puis, Palme d'Or à Cannes, et puis il a été présenté à ce festival à Rio de Janeiro, où j'étais moi aussi avec le film de Michel Deville.
Voilà.
Mais il a vraiment fait quelque chose d'inouï, là, hein, Michel Legrand. C'est un chef-d'œuvre, ce film, et il a inventé la comédie musicale moderne. C'est-à-dire où tout est chanté et où il n'y a pas de... comment dire... des dialogues spéciaux pour la musique. Il a musiqué, mis en musique, les dialogues tels qu'ils étaient de Jacques Demy. Et donc, vraiment, c'est une primeur, c'est une nouveauté que, d'ailleurs, vous voyez, dans La La Land, Damien Chazelle, c'est ça qu'il avait particulièrement admiré et essayé de copier.
Voilà, il se trouve que ce film a donné 2 ans de travail, que personne n'en voulait. Et un soir, il dîne avec son copain Francis Lemarque, il joue aux cartes, il lui parle de son problème. Et Francis Lemarque va accepter de rentrer dans l'édition musicale. Et c'est comme ça que le film
va se faire. Vous êtes au courant des dessous des choses, hein. Mais ça ne m'étonne pas de vous. Et vous savez, coïncidence extraordinaire, Michel est au Père Lachaise, en quinconce avec Francis Lemarque. Ils ont leurs deux têtes proches l'une de l'autre.
C'est fou. Alors, il se trouve que ce festival de Rio, Michel Legrand a hésité avant d'y aller. Il a hésité, il va 5 jours. Et puis, il va se promener un soir à Ipanema. Jacques Demy manque de se noyer, je crois.
Oui, c'est vrai, il l'a sauvé. J'ai assisté à ça. Parce que ça y est, des vagues énormes à Copacabana. Il faut se méfier. C'est l'Atlantique, quand même. Et Michel était très sportif, il nageait très bien. Pas tellement Jacques. Et donc, il a failli se noyer, en effet.
Il n'y aurait jamais eu la suite des Demoiselle de Rochefort. Mais surtout, il y a un dîner après où on ne parle que de ça, et puis vous êtes un peu en aparté avec Michel ce soir-là.
Non, ce qui nous a unis, c'est le jazz.
Oui.
Alors, il était très bluffé qu'une jeune femme comme moi soit aussi férue de jazz. Non seulement je connaissais bien, parce que j'avais eu des professeurs de jazz qui étaient un de mes amants précédents, et puis surtout, j'avais vécu aux États-Unis et j'avais rencontré à peu près Jerry Mulligan, Bill Evans, je les avais rencontrés physiquement. Alors, il était très bluffé. Et quand on est arrivé au Brésil, c'était le début du jazz brésilien. Donc on allait ensemble écouter Vinicius de Moraes, João Gilberto. Et personne d'autre n'y allait, parce que les autres, c'était tard le soir, et tout le monde se préparait pour les journées du lendemain, tandis que nous, on s'en fichait, on aimait trop la musique.
Voilà, et vous avez justement écouté cette musique.
Voilà. Comment on peut résister à une musique pareille?
The Girl of Ipanema. Il se trouve que ce morceau a été repris par Sinatra, Nat King Cole, Fitzgerald, dans 40 langues à peu près. C'est incroyable.
Oui, mais certains tubes de Michel aussi.
Oui.
Alors, je fais l'article, hein, parce que je défends ma chapelle. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire, le jazz brésilien. Et vous savez, tristement, il a disparu. parce que aujourd'hui, les grandes boîtes américaines qui font de la musique pour les DJ et pour le danser ont un peu éteint ça. Ce jazz-là. Et quand on est allé récemment au Brésil, on a cherché désespérément des boîtes où on pouvait encore entendre ça. Ça n'existe plus.
Alors j'en reviens à ce dîner, parce qu'au cours de ce dîner, où donc on parle de l'accident qui est arrivé à Jacques Demy, je crois que Michel Legrand vous prend la main, vous tend la main, et c'est comme ça que tout va commencer, ma chère Myriam.
Alors il était assez tactile, mais avec moi il avait un peu peur. Puis tout d'un coup, à un moment, j'ai posé ma main comme ça, à l'envers. Il a mis la sienne dans la mienne. Et j'ai ressenti quelque chose de très spécial, de très extraordinaire. Alors, vous savez, quand j'avais 25 ans, la sexualité, je connaissais, mais je n'avais pas encore compris la force de ça, la force de cette union qui peut relier deux êtres humains. C'est quelque chose de, j'allais dire, d'imputrescible. C'est très fort. Et 50 ans plus tard, quand le même geste s'est produit, j'ai mis ma main comme ça, il a mis la sienne. Et j'ai ressenti la même chose.
C'est fou, hein.
Comme quoi, il faut faire confiance à tous ces signaux qui nous sont donnés. Ça existe, vous savez. Si on veut bien vivre, il faut les écouter, tous ces petits signaux.
Alors, il vous a fait quand même un petit mensonge. Vous l'avez invité à danser le slow. Et vous êtes aperçu que Michel Legrand savait faire de la musique, mais pas du tout danser, ma chère Myriam.
Attendez, moi, j'étais championne de bebop à Paris. Ouais. Alors, évidemment, je voulais crâner un peu. Je voulais lui montrer qu'il était nul. En quelque chose, parce qu'il était bon en tout. Hein. Ouais. Il était d'abord beau comme un diable, ensuite il était très tennisman, presque champion, il était pilote d'avion, il était le musicien qu'on connaît, donc il fallait quand même que je l'écrase quelque part.
Et donc, vous l'avez écrasé dans ce domaine-là, mais ça ne vous a pas empêché de passer quelques jours ensemble à Rio, et vous aviez un guide qui était Jean-Gabriel Albicoco, qui a été un metteur en scène devenu célèbre avec la fille aux yeux d'or, avec non. Marie Laforêt qu'il a épousée.
Et qui s'était installé au Brésil, qui vivait, et c'est lui qui nous avait accueillis et qui nous avait signalé ces boîtes, ces petites boîtes dans les favelas où on jouait le jazz brésilien.
Voilà, et vous étiez les seuls Français dans ces boîtes.
Absolument, il y avait une fumée, on ne voyait rien, mais je tiens à vous préciser une chose, c'était 64, on ne couchait pas à l'époque.
Eh oui.
Donc... Et alors les gens me disent, on se moque de moi. Oui, révolution, d'accord, mais risque, non. Voilà. Vous savez, les femmes de ma génération, nous connaissons avant pilule et après pilule. Et donc, j'étais une de ces femmes. Mais ce n'était pas que pour ça. Parce qu'on aurait pu avoir une idylle de voyage. C'est qu'on savait que c'était le grand amour. Donc, ça aurait quelque part un peu terni la pureté de cette rencontre. Nous savions que c'était pas possible. Il était marié, moi, en plus j'allais me marier, moi. Mais j'ai pas épousé le type en question, j'ai bien fait, parce que je me suis tout de suite dit, si je tombe amoureuse à ce point de quelqu'un, ça veut dire que c'est pas le bon numéro. Mais on a protégé notre amour d'une certaine façon. Et je pense que Michel avait une très haute idée de l'amour, mais aussi de la sexualité. Il a eu les plus belles femmes du monde, hein. il a pas chômé. Mais avec moi, c'était comme ça. C'était une chose idéale, une union parfaite.
Ça veut dire 5 jours de promenade sur la plage, main dans la main. Mmh. En plus, vous aviez une suite à l'hôtel Copacabana. Lui avait une chambre beaucoup plus modeste.
Comment il sait tout ça? Mais c'est pas croyable.
C'est vrai que les comédiens étaient mieux traités que les musiciens, ma chère.
Absolument. Moi, j'avais. Alors, ils venaient se changer chez moi. Mais quand même, tout ça à distance, on n'osait pas parce qu'on était bouleversés par ce qui nous arrivait. Et puis, je crois que lui, encore plus que moi. Parce que je pense que pour un homme marié, il venait d'avoir un deuxième bébé, deuxième enfant. Ça l'a vraiment perturbé. Et quand nous nous sommes quittés, à la fin de ces quelques jours de Brésil, on s'est dit adieu. Et on va pas se rechercher. C'était un vœu assez cruel, mais finalement assez sain, parce qu'on n'aurait pas pu avoir une liaison à Paris, genre Backstreet, vous savez, que je sois là. Bon, ça ne me ressemble pas et ça ne lui ressemble pas non plus.
Et Claude Lelouch a fait un film qui s'appelle Un homme qui me plaît. C'est un petit peu votre histoire, ma chère Myriam.
Ah oui, enfin c'est ça. On peut aussi. La vie n'est pas toujours en accord avec les sentiments. Écoutez, toute la littérature est pleine de ça, hein, de Anna Karenine à Jivago. Hein. On n'aime pas toujours la personne qu'il faut au moment où il faut. Et c'est d'ailleurs la source de beaucoup de romans.
D'ailleurs, vous avez fait découvrir la littérature à Michel Legrand. La musique, c'était sa vie. Mais la littérature, Henri Michaud et quelques autres, ben, c'est grâce à vous qu'il
l'a. C'est incroyable comment vous êtes documenté. Mais vous êtes pire que... Madame Soleil, vous avez tout. Vous savez même au-delà de moi. Parce que c'est vrai que je lui ai fait découvrir une certaine littérature, la poésie. Hein. Et moi, j'étais en plein dedans. J'étais en plein dedans parce qu'à l'époque, mon compagnon de l'époque, oh, je vais vous dire qui c'est, je vais vous faire une confidence.
Oui, oui, allez-y.
C'était Paul Claudel, le petit-fils de l'écrivain. Et quelle vacherie, ses parents l'avaient appelé Paul.
Oui.
Ça, faut vraiment, vraiment être vache. Et alors, il était en plein dans cette recherche de la langue française et de la, d'une idée, une certaine idée de la pureté. Et donc, moi, je vivais là-dedans et j'avais tout lu, je ne voulais pas être en retard là-dessus. Et donc, évidemment, Paul Éluard. Mais il se trouve que Michel était sensible à la poésie, à la littérature. Et beaucoup plus tard, là, il y a quelques années, je lui ai fait découvrir Julien Gracq,
oui,
qui n'avait pas lu non plus. Donc, je dis ça aussi à tous ceux qui nous écoutent. Il est toujours temps de découvrir des œuvres. Il est toujours temps de découvrir des écrivains, des auteurs, des films. C'est jamais fini.
Voilà. Et ce qui n'est pas fini, c'est notre rendez-vous. On va se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 4 décembre 1964. A tout de suite sur Sud Radio avec Macha Meryl.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Macha Meryl. On parle de vous, de Michel Legrand, de ce prix Michel Legrand que vous allez lancer dans quelques jours. Et une date importante, c'est le 4 décembre 1964, la sortie d'un film dont vous êtes la tête d'affiche qui s'appelle Une femme mariée, de Jean-Luc Godard. Et ça a été un tournant dans votre carrière, Macha Meryl.
Ah ben, dans la carrière de n'importe quelle femme, je suis dans tous les plans. Il n'y a pas un plan sans moi. C'est-à-dire, quand je n'y suis pas, il y a un bout de main, un bout de genou, une épaule, je suis de dos, de face, etc. C'est-à-dire que c'est un espèce de portrait d'une femme qui n'était pas moi, du tout, mais qui était la fin des fantasmes machos. Godard, il a eu quand même cet instinct extraordinaire de comprendre que les femmes ne seraient plus les mêmes. Que même une jeune femme un peu écervelée, comme celle que je jouais dans ce film, qui hésitait entre son mari et son amant, qui faisait les mêmes gestes avec les deux, eh bien, finalement, elle ne se laissait pas faire. Il y avait une espèce de résistance et que les femmes ne seraient plus jamais aussi dociles et aussi serviles. Alors, c'est un film important, parce que les films de Godard, c'était ça. C'était des faits de société. C'était on devait aller voir les films de Godard pour pouvoir en parler, même ceux qui n'aimaient pas ce cinéma-là. Il fallait, dans les dîners, après, on en discutait âprement. Et vraiment, je pense en plus que ce film-là, pourquoi est-ce qu'il a une identité particulière? C'est parce qu'il a été interdit.
Oui.
Il y avait un plan où simplement ma main qui ouvrait le robinet d'un bidet.
Oui.
Ça, c'est pas possible, ça. On peut pas montrer une chose pareille.
Ah bah bien sûr que
non. Donc c'était interdit. Et puis, un autre plan où on me voyait de profil, gros plan, avec des ciseaux. D'abord, je coupe la frange, et puis je baisse la tête, on reste sur la tête, et on entend cloc, 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 donc on imagine, oui, que je coupe les poils du pubis. Ça aussi, impossible, dans la censure catholique de l'époque. Et puis en Italie, ils ont changé le titre, parce que on m'a changé le titre, d'ailleurs. C'était de la femme mariée, et c'est devenu une femme mariée. Ça ne pouvait pas être un exemple de femme mariée. Donc c'est un film qui a marqué, pas seulement parce que il était très beau, très réussi, en plus visuellement il était très réussi. Vous savez que Godard est un plasticien, il a fait une école de décoration à Zurich et il s'en défend parce qu'il veut pas être un artiste, hein, il veut être un agitateur, mais franchement, c'est un film qui a une beauté plastique extraordinaire.
Et il y avait un assistant, je ne sais pas si vous en souvenez, qui était Jean-Pierre Léaud, qui tournait déjà avec Truffaut et qui a ensuite a tourné avec Godard dans Pierrot le Fou.
Oh bah c'était toute une petite bande, hein. On était toujours les mêmes. Moi aussi, à l'époque, j'avais créé une société de production, je portais les bobines et tout ça. C'était dans ce sens, une sorte de petite révolution dans le cinéma. On parle toujours de la Nouvelle Vague comme d'une révolution idéologique, artistique. Non, c'était une révolution de production. On allait voir les producteurs et on leur disait, pour le prix d'un, on vous en fait trois. Mais à quelles conditions? C'est que tout le monde mette la main à la pâte, que les syndicats, on ne savait pas ce que c'était, qu'on travaillait nuit et jour et qu'on faisait les films en 15 jours.
Et leur surprise, Michel Legrand est là, car Jean-Luc Godard l'a appelé, il a essayé d'avoir les droits d'un morceau de Beethoven, un quatuor à cordes, il n'y est pas arrivé, et Michel Legrand va reconstituer ce quatuor à l'identique pour moins cher.
Alors, c'est plus subtil que ça encore, Jacques, c'est qu'il avait mis cette musique qui était de Deutsche Grammophon, d'un quatuor très célèbre, des quatuors de Beethoven. Et pour pouvoir avoir les droits, il l'a fait réinterpréter par Michel,
voilà,
sans qu'il change une note. Et dans le film, il a mis le quatuor de Deutsche Grammophon. Personne ne verra la différence.
Et personne n'a vu la différence.
Ah, bah écoute, il faut être malhonnête en art. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord.
Et Michel, apprenant que vous êtes là, ne va pas venir à l'avant-première du film, Macha Meryl.
Ah, ça, je ne l'ai pas su. Alors, ça, si vous avez eu cette info, je peux la comprendre et je la prends très bien. Ça veut dire qu'il avait respect pour notre histoire.
Oui, d'autant plus que vous êtes recroisés plusieurs fois. C'est une fois chez Christophe Izard, une fois à Roissy sur des tapis roulants.
Oh, mais vous êtes inouï quand même. J'ai jamais raconté ça, je sais pas d'où vous tenez cette histoire. Brillé. Ce sont les tapis eux-mêmes qui vous ont parlé, je ne sais pas. Effectivement, c'était très poétique et très lelouchien. Il était dans celui qui monte et moi dans celui qui descend. Et on s'est salué, je lui dis « Oh, je suis fière de tous tes succès, il venait d'avoir un Oscar. » Et il lui dit « Hey, toi, comment ça va ?» Et moi, je partais pour l'Italie, je venais de me marier avec un Italien.
Voilà, il se trouve qu'à l'époque, bon, il avait effectivement un gros succès. Il se trouve que grâce à Maurice Chevalier, dont il avait été le directeur musical, il est parti à New York, il a tourné un show pour la chaîne NBC qui s'appelait « I Love Paris ». Et dans ce show, il y avait des chansons sur Paris, plus une chanson qu'il a créée et qui est devenue un succès international.
Merveille cette chanson. C'est de qui sont les paroles ? Eddie Barclay.
C'est Eddie Barclay qui a écrit la valse des Lilas,
fou,
que le monde entier a repris. Et d'ailleurs, ça a valu à Michel Legrand à l'époque une page entière dans l'hebdomadaire Time. On l'appelle Big Mike.
Si alors savez. On l'appelait Froggy aussi, hein, oui. Parce que c'est pour ça que j'ai choisi la grenouille comme un emblème, parce oui. qu'on l'appelait Froggy.
Oui.
Comme tous les Français, ils mangent des grenouilles, donc on les appelle des petites grenouilles.
Alors finalement, bon, vous vous.
Alors il a fait le disque surtout, oui. qui s'appelait I Love Paris, oui. qui était de Cole Porter, avec un ou deux thèmes qui n'étaient pas de Cole Porter, et qui a été un succès phénoménal. Et à la suite de ça, la Columbia lui a offert l'opportunité de faire un disque de jazz. Il avait 22 ans. Et il a fait, avec les plus grands, Miles Davis, Bill Evans, je ne sais plus qui il y avait encore, tous les grands musiciens de jazz de l'époque, il a fait un disque qui est resté dans les annales, qui s'appelle All That Jazz.
Exactement. Et cette valse des Lilas, mais aujourd'hui, beaucoup de gens l'écoutent sans imaginer que c'est Michel Legrand. On l'entend partout encore.
Ah, bien sûr, Sinatra l'a chanté, Barbara Streisand, tout le monde l'a chanté, cette chanson-là.
Et Chevalier, un jour, a fait un grand cadeau à Michel Legrand. Il va dans sa loge, Michel Legrand, et il lui présente son meilleur ami, qui était Charlie Chaplin.
Absolument, il y a la photo, d'ailleurs, oui. qui existe. Oui. Et beaucoup, beaucoup plus tard, dans un film de Xavier Beauvois, qui s'appelle La rançon de la gloire, Michel a pu imiter les musiques de Chaplin dans le film de Xavier.
C'est vrai que Chaplin et Chevalier étaient très copains aux États-Unis, lorsque Chevalier, en 1930, a été la première star française à New York, et que Chaplin aussi débutait en dehors de ses rôles de Charlot.
Et Michel était tout jeune, il était orchestrateur et dirigeait l'orchestre, l'accompagnement de Maurice Chevalier.
À l'Alhambra, où Maurice Chevalier a un moment fait un numéro, c'est exactement ce que fait Michael Jackson, mais 20 ans avant.
Il était génial, hein, Chevalier. Michel avait beaucoup d'estime pour l'artiste, un petit peu moins pour l'homme, qui était assez radin, Maurice Chevalier. Mais enfin, et puis surtout, il lui a donné quelques leçons, quelques règles de vie, de showman.
Alors, pendant qu'il est aux États-Unis, vous travaillez. Il y a eu plusieurs films qui ont eu du succès. Il y a eu Belle de jour de Buñuel, Nous ne vieillirons pas ensemble, titre prédestiné que vous avez joué. Et vous avez travaillé au Québec et en Italie beaucoup.
Oui, alors ça, vous savez, c'est les hasards des demandes. Hein. Moi, je m'étonne toujours quand les acteurs ou les actrices parlent de leur carrière comme s'ils en avaient décidé. Non, c'est les coïncidences, les hasards. On m'a proposé cette série formidable qui s'appelle Lance et Compte, qui est He Shoots, He Scores. C'est un film sur le hockey. C'était tellement populaire que les magasins fermaient, les dépanneurs, vous savez, au Québec, fermaient parce que les gens regardaient la télévision. On en a fait je ne sais pas combien d'épisodes, et c'était en coproduction avec TF1 à l'époque. Et c'est resté, ça a continué pendant très très longtemps cette série. J'ai beaucoup aimé le Québec d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les Canadiens. Et puis l'Italie, c'est une histoire aussi d'amour du cinéma et d'amour tout court, parce que j'ai rencontré Gian Vittorio Baldi, qui était un cinéaste de la nouvelle vague italienne, très ami de Bellocchio, de Bertolucci et de Moravia, que j'ai connu comme ça. Et c'était vraiment une période où j'ai eu le choc de ma vie, c'est le choc de la cuisine italienne et de l'huile d'olive. Et alors ça, je peux vous dire que ça m'a resté, puisque j'ai fait après des livres de cuisine.
Joyeuse
J'espère
pâte, notamment.
Que vous allez en parler, parce que c'est une étape importante de ma
mais
vie.
Mais oui, et la cuisine a été très importante pour vous.
Très important, mais je pense que la cuisine, c'est ce qui est le plus culturel, c'est ce qui raconte un pays plus que tout. Et je me désole qu'en France, justement, elle s'éparpille un peu, la cuisine. Là, en ce moment, il y a des tentatives de regroupement, qu'on revienne un petit peu à la cuisine locale. Parce que c'est une identité très forte, la cuisine.
Et vous faisiez souvent chez vous des dîners avec des amis et des plats de pâtes directement.
Ah bah écoutez, j'ai fait un dîner mémorable avec Michel Serrault. Mon Dieu, comment il s'appelait
Jean Poiré.
Non. Mon Dieu, ma mémoire, vous savez, ça commence. Hein. Enfin, en tout cas, il y avait tous mes grands copains comédiens et je ne leur ai fait que des pâtes. 3 recettes différentes de pâtes.
Alors, il y a aussi vos retrouvailles avec Michel Legrand. Donc, il y a le Festival de télévision de Monte-Carlo, où vous vous retrouvez. Et puis, il y a un film où vous êtes...
Non, on ne se retrouve pas. On était à 2 tables différentes.
Oui.
Il ne me plaisait pas, d'ailleurs. Il avait beaucoup grossi. Il était dans un moment difficile de sa vie, et moi aussi.
Oui.
Et c'est drôle, là, on s'est presque... On ne s'est presque pas plu.
Oui, mais ça peut arriver.
Ouais,
mais il y a aussi les jeux de l'amour et du hasard qui ont continué avec ce film.
Les uns et les autres. Les uns ou les autres.
Car on oublie que la musique, c'est Francis Lai et Michel Legrand.
Ah, regardez. La chanson du bout du monde, la fin du monde, c'est Michel. Alors, il faisait bon ménage quand même entre les trois, là, Lelouch, Francis Lai et Claude. Francis Lai est un instinctif, un mélodiste qui a quand même un talent fou, mais le vrai musicien, le vrai connaisseur, c'était Michel. Donc Michel faisait les orchestrations, dirigeait les orchestres, et puis, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film, je pense que c'est le plus grand film de Claude, parce que, sauf qu'il n'a pas tenu son pari. Son pari c'était qu'il n'y ait pas de dialogue du tout, et que la musique soit la guide, le film et les images. Et puis il n'a pas résisté, Claude c'est plus fort que lui, au bout d'un moment il a dit à Robert Hossein et à Nicole Garcia, alors tu vas dire ça, et ça y est, les dialogues ont commencé, et ça n'était plus le même postulat.
En tout cas, vous n'avez pas résisté non plus, Michel non plus, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 18 septembre 2014. A tout de suite sur Sud Radio avec Macha Meryl.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Macha Meryl. On parle donc de Michel Legrand, on parle de ce prix Michel Legrand qui sera le 19 juin, puis aussi d'un autre festival de russe, et puis une date, oh, vous n'avez pas oublié, 18 septembre 2014.
Ah oui, ça c'est inoubliable, c'était le jour de mon mariage. Alors nous nous sommes mariés d'abord civilement à Monaco,
oui.
Parce que Michel était résident à Monaco, et puis ensuite à l'église orthodoxe de Paris. Il y tenait beaucoup. Il n'était pas très croyant. Mais il voulait absolument que ce soit un événement tel qu'il fallait tous azimuts. Il fallait qu'on ait aussi l'église. Alors c'était compliqué parce qu'il était catholique, de mère catholique, et de mère d'origine arménienne mais catholique, et de père français. Et donc, je l'ai emmené chez l'archevêque orthodoxe qui l'a béni et qui lui a dit « Écoutez, ok, je vais vous convertir. » Et il m'a dit « Tu sais, il m'a posé une question. Il m'a dit « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» J'étais bien embêtée. Et je lui ai dit « Vous savez, oui, je pense qu'il y a une puissance autour de nous, quelque chose de créatif. » Et l'archevêque lui a répondu « Mais bien sûr, parce que vous êtes Dieu, vous les créateurs, vous les grands musiciens. » Alors là, il se l'est gagné. Et Michel était complètement orthodoxe jusque... Mais les Arméniens sont aussi à l'origine de l'orthodoxie. Donc il y avait une logique.
Et d'ailleurs, Charles Aznavour et Hula, sa femme, se sont mariés dans cette église aussi,
voilà.
À Paris, cette église
avec
orthodoxe.
Le chœur, il y avait 25 chanteurs. Et alors, c'était extraordinaire que pendant le mariage, ça dure longtemps hein, chez les orthodoxes. Il y avait des blancs. Et à un moment donné, je vois Michel qui regarde comme ça le ciel. Je dis « Mais qu'est-ce que tu regardes ?» Et il me dit, en écoutant les chœurs, « Je vois la musique s'afficher. » Alors ça me bouleverse, moi, les musiciens. Vous savez qu'ils ouvrent une partition, oui. Qu'ils l'entendent, en voyant les notes, qu'ils entendent. Voilà, ça, c'était les capacités de Michel.
Et il y a eu un moment beaucoup plus difficile pour Michel Legrand, c'est qu'il y a eu une messe de préparation qui a duré 2 heures. Et 2 heures assis, c'était pas son truc.
Comment vous savez ça? C'est fou. Alors, non seulement c'était très, très long, mais à un moment donné, il regarde sa montre et puis il se penche vers moi, il me dit « Pourquoi je regarde l'heure? Ici, le temps n'existe pas !» Et je pense que c'est la vertu de la religion, vous voyez. Il faudrait couper le sens du temps. Et on est trop minuté, nous, en ce moment. La vie est trop minutée.
C'est pour ça, ici, que Sud Radio, avec les vies, on prend le temps de vous écouter
c'est
pendant
bien.
Une heure,
bravo.
Ce qui ne se fait plus ailleurs. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est qu'il a dû baiser la main de l'archevêque. Et ça, il l'a fait spontanément, Michel Legrand.
Alors, c'était dans la tradition. Il
oui.
aurait dû le faire, mais je ne l'avais pas dit.
Oui.
Et il l'a fait instinctivement. Alors, l'archevêque a cru qu'il était vraiment né pour être orthodoxe.
Et en fait, il avait, je crois, croisé Mère Teresa quelques années plus tôt. Il
même chose.
La même chose.
Même chose.
C'est comme ça qu'il l'a instinctivement fait. Alors, je crois qu'en plus, il y a une photo où son fils tient une couronne au-dessus de sa tête.
Alors, c'est au mariage.
Oui.
Parce que c'est la tradition orthodoxe. Ça s'appelle des schaffers. Ils tiennent la couronne au-dessus de la mariée, au-dessus. Et donc, il faut avoir derrière soi, soi-disant des célibataires, beaux et grands, parce qu'il faut être grand hein, pour tenir cette couronne, parce qu'on se fatigue, alors on se passe la couronne entre les successeurs. Et c'est une très belle tradition, il y a des photos magnifiques.
Et d'ailleurs, une autre tradition, les mariés sont entourés de leur famille, les familles ne sont pas derrière.
Alors ça, c'est l'Église orthodoxe, on n'est pas assis, et on est partout. C'est-à-dire qu'ils étaient devant nous. Tous nos amis, d'ailleurs, ça cliquait de toutes les photographies possibles et imaginables, parce que c'est ça qui est merveilleux, c'est que dans les églises catholiques, on voit la traîne de la mariée, on est derrière. Tandis que là, ils étaient tout autour de nous, devant. C'était très émouvant, vous savez, vraiment. Parce que l'idée un peu saugrenue qu'on se marie à nos âges, moi j'avais 74 et lui 82, et le prêtre qui lisait la liturgie dans l'ordre, à un moment donné, a dit « Et nous espérons qu'ils auront beaucoup d'enfants !» Alors, toute la salle a explosé de rire, nous les premiers. Mais voilà, on a tout fait dans les règles.
Voilà.
On a tout fait.
Alors, il faut savoir que tout a commencé lorsqu'il s'est séparé de sa dernière femme, bon, parce que ça n'allait plus, vous êtes retrouvés. Et d'ailleurs, il y a une chanson de Jean-André Jacques, chantée par Serge Gainsbourg, qui évoque la dernière rupture de Michel Legrand.
Aujourd'hui, le drame pour toi et pour moi, c'est que notre émoi, c'est que ce mélange du diable et de l'ange.
Ça s'appelle Rupture, je ne sais pas si vous la connaissez. Et effectivement, donc, il se retrouve seul, et puis un soir, il voit un carton pour une pièce de Didier Van Cauwelaert. Ça s'appelle Rapport intime, et qui est à l'affiche, Macha Meryl.
Et alors dans l'affiche, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait cette photo, je montrais avec mon doigt le public.
Oui.
Et il a dit, mais c'est moi, il m'appelle, elle m'appelle. Alors il est venu, c'était la première. Et le soir même, il me dit, écoute, ce coup-ci, je t'épouse. Ah, je dis, attends, tu vois, on va d'abord essayer, on va voir. Bon, on a passé une semaine ensemble, et c'était, comment dire, pas seulement des retrouvailles. C'était une évidence. C'était comme si enfin les choses se mettaient en place.
C'est-à-dire qu'il est venu au théâtre tous les soirs parce que la pièce continuait. Alors c'est Michel Aimer avait fait ça à Jacqueline Maillan. Il était amoureux de Jacqueline Maillan au Donou. Il a pris le même fauteuil tous les soirs en 52 jusqu'à ce que Jacqueline Maillan accepte de dîner avec lui et se sont mariés. Et vous avez fait, vous, un dîner dans chaque restaurant différent tous les soirs jusqu'à la fin des représentations.
Comment vous êtes au courant? Vous êtes avec les flics, vous avez les renseignements généraux, c'est pas possible.
Les renseignements colonels seulement.
Oui, c'est exact. Et alors, Didier Van Cauwelaert était un petit peu agacé parce qu'il aurait bien voulu emmener son Michel dîner dans des grands restaurants, mais lui, il préférait aller avec moi avec les copains et avec les autres comédiens.
Et donc, finalement, il y a eu, avant ce mariage, il a voulu vous emmener à Venise, vous avez préféré la maison de campagne.
Oui, je me suis dit, on va chez toi, on va voir et commencer. Puis en plus, je voulais faire un petit peu ça, une analyse de quelle était notre situation physique. Je pense que c'est très important. Parce qu'on change au cours de la vie, on n'est pas les mêmes, la sexualité change, mais elle existe. Et ça a été merveilleux, magique. Ah.
Ce qui est extraordinaire, c'est que cette histoire aurait pu commencer 10 ans plus tôt. Il y a un anniversaire, un hommage à Maurice Jarre, vous faites partie du jury, et puis vous n'êtes pas là.
C'est inouï, parce qu'on s'est croisés. Il y a eu un hommage à Maurice Jarre à lequel j'étais et lui n'était pas. Et puis il y a eu un hommage à lui et je devais venir et je ne suis pas allée. Donc écoutez, il faut croire au destin. Moi, comme je vous disais, il faut accepter les signaux. C'était pas le moment, c'est tout, voilà. Peut-être que j'aurais préféré vivre plusieurs années de plus avec lui, mais non, on aurait pu épargner lui sa dernière compagne et moi mon dernier compagnon, parce que ces deux-là, on aurait pu s'en passer. Mais enfin, on se le dit maintenant. Finalement, on a vécu des choses très intenses, parce que quand on sait qu'à certains âges, quand tout de même il y a un petit compte à rebours qui s'installe, eh bien, on vit deux fois plus intensément. On ne perd pas une seconde.
Alors, ce mariage donc est décidé, enfin, et vous décidez d'annoncer chez Michel Drucker à la télévision.
Pourquoi? Ah, ça, c'est drôle, parce que, voilà, Michel me demande de faire son émission.
Comment ça s'appelle? Vivre dimanche.
L'émission au portrait, oui. C'est ça. Et nous venions de nous décider de nous marier. Alors, je prends Michel Drucker à part et je dis, écoute, Michel, il faut que je te fasse une confidence. Le mois prochain, je vais me marier. Elle me dit, avec qui? Avec Michel Legrand. Ils étaient fâchés complètement, parce que le jour où Drucker avait reçu Barbara Streisand avec Michel Legrand pour Yentl, elle ne voulait pas chanter. Et Drucker l'avait obligé à chanter, il y avait un pianiste. Et donc, ils étaient furax, aussi bien Barbara que Michel. Et donc Michel Legrand, le mien, qui est quand même grande gueule, s'est répandu dans la presse en termes exécrables sur Michel Drucker. Donc ils étaient un peu fâchés. Alors je les ai réconciliés. Je leur ai dit, écoutez, je te fais un cadeau, Michel Drucker. J'annoncerai notre mariage en scoop et en direct chez toi. Mais alors, s'il vous plaît, faites la paix. Ils ont fait la paix.
Voilà. Et le voyage de noces a eu lieu avant. Vous êtes retourné à Rio 50 ans avant.
Oh, c'est pas croyable. Non, mais vous êtes un espion qui vient du froid, vous. C'est pas croyable.
C'est vrai.
C'est absolument vrai. Et nous sommes retournés sur tous les lieux. Et comme je vous disais, malheureusement, nous ne les trouvions plus. C'est-à-dire que ces petites boîtes de nuit formidables où on jouait du jazz brésilien, elles n'existent plus. Et nous avons rencontré quelques-uns de ces musiciens qui crèvent de faim. Et d'ailleurs, c'est un des objectifs que Michel voulait réaliser chez lui à la mode. C'est de faire un endroit où on puisse donner un coup de main à tous ces musiciens excellents qui ne travaillent plus.
Oui, et qu'il a croisé, parce qu'en plus, vous avez donné, je crois, 2 concerts au Brésil et 1 au Chili pendant ce voyage de noces, autant employer le temps au maximum. Mm-hmm. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au Brésil, il y a dans une petite rue, dans un grand magasin, devant un grand magasin, une réplique de la Statue de la Liberté de New York.
Absolument.
Et on ne le sait pas, ça.
Oui, mais on laisse des traces, vous savez. Oui. Il y a aussi un immeuble qui s'appelle Michel Legrand, oui. Et avec une grande image, une peinture murale, oui. Vous savez, murale, cela, qui représente Michel.
C'est magnifique. Mmh. Il y a d'autres hommages, d'ailleurs, il y a des hommages un peu partout pour Michel Legrand.
En ce moment, on est submergé de demandes de concerts et de demandes de conservatoires qui veulent donner le nom à Michel, et ça me fait très plaisir. Mais vous savez, je veux faire ce prix parce que, quand même, les gens sont oublieux. Dans 5 ans, dans 10 ans, et même quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui se passera? Donc, il faut absolument créer ce prix Michel Legrand.
On va en parler dans quelques instants, oui. Parce que j'aimerais qu'on revienne à ce mariage surréaliste. Je crois qu'il y avait... c'est un mariage en cinémascope, c'était une soirée grandiose dans un lieu, dans un parc immense.
Alors, grandiose, pas tellement, parce que... Alors, on se regarde tous les deux, on ouvre nos carnets, il y avait 2000 personnes chez lui et 2000 chez moi. Qu'est-ce qu'on fait?
Oui.
Alors on a fait un critère, on invite que ceux qui nous aiment. Alors ça fait vite, hein, oui. ça élimine beaucoup de gens, ceux qui nous aiment vraiment. Et c'était pas un mariage utile, avec pas de people, forcément. Il y avait beaucoup de gens connus, bien sûr. Et c'était l'idée qu'il le souhaitait, c'est vraiment lui qui le souhaitait, c'était un spectacle. Donc il y avait un petit chapiteau, qui s'appelle le Magic Mirror, qui est un merveilleux petit chapiteau ancien, et chacun avait consigne de faire quelque chose, mais pas plus que 10 minutes. Alors Pierre Richard a fait un sketch avec Stéphane Le Rouge, Morane a chanté, Nathalie Dessay a chanté, Vincent Niclot a chanté, mais tous très peu, et c'est ça qui était extraordinaire. À un moment donné, il s'est mis au piano, lui, avec le Big Band, et il m'a dédié quelques-unes de ses musiques. Évidemment, on ne peut pas raconter ça, c'est des choses inoubliables.
Et on a entendu aussi un extrait d'un concert avec Ray Charles, car il a joué avec Ray Charles. Gong, 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 gong. Car on n'imagine pas le nombre de duos et de spectacles qu'a fait Michel Legrand, souvent pour le plaisir. Il a fait un Olympia et un disque avec Stéphane Grappelli. Il a chanté avec Sarah Vaughan, Nana Mouskouri, Nicole Croisi. Ça durait des heures à Deauville au dîner des ambassadeurs. Le spectacle prévu pour une heure durait 3 heures. Il aimait ça.
Ah, il adorait. C'était un showman. Hein. Il était très drôle. Et vous savez, une des pertes qui l'a le plus blessé, c'était... La disparition de Jerry Lewis. Ils étaient très amis et ils étaient deux pitres tous les deux, comme il a été avec Darry Cole au début de sa carrière. On oublie oui. Ça, mais Darry Cole était pianiste et ensemble ils avaient inventé des sketchs.
Ça a été un beat total d'ailleurs.
Ah, ça marchait pas trop, non.
Avec Robert Lamoureux.
Oui. Mais par contre, quand même, Darry Cole est devenu ce qu'il est devenu et Michel, il a toujours eu envie d'être aussi un showman. Et aux États-Unis, il a réussi des grands, grands spectacles, justement quelques-uns avec Jerry.
Alors ce mariage, bon, beaucoup de gens en ont parlé, et dans la rue, on vous a arrêté, Macha Meryl, on vous a remercié de l'espoir que vous donniez à ceux qui pensaient qu'ils ne retrouveraient jamais leur jeunesse.
Oui, comme on a parlé de ce mariage, c'est ça la vertu quand même des médias. C'est que tout d'un coup, tout le monde s'est intéressé à la possibilité de l'amour à nos âges. Qui est réel. Je crois qu'il y a beaucoup plus de gens d'amour qui naissent tardivement qu'on ne croit. Mais bon, nous, ça s'est connu, ça s'est su, et je voyais il y avait surtout les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes abandonnées, hein, beaucoup de femmes seules, qui nous touchaient comme des dieux vivants en disant « Ah bon, alors c'est possible, ça existe, ça va peut-être m'arriver à moi aussi ».
C'est le mal qu'on leur souhaite. En tout cas, vous continuez, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 19 juin 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Macha Meryl.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Macha Meryl. On parle de Michel Legrand, donc, qui a été votre mari avant de disparaître, voici 2 ans. Et le 19 juin 2021, ben, vous créez quelque chose qui vous tient très à cœur, Macha Meryl, le prix Michel Legrand.
Ah oui, ce sera une grande date. Alors, je souhaitais déjà avec lui faire le festival Michel Legrand, qui aurait été un festival qu'on aurait donné là-bas, à La Motte, dans la dernière maison où il a vécu, qui est une grande propriété dans le Loiret. Et il y a la place pour mettre un grand chapiteau, faire des concerts, pour honorer la musique de cinéma. Vous savez qu'il n'y a pas un seul prix dans le monde entier pour le musicien de cinéma. Ni en Europe, ni aux États-Unis, ni en Chine, ni nulle part. Alors ça, c'était quelque chose qui lui plaisait. Et puis, depuis qu'il nous a quittés, je me suis dit, je vais créer aussi le prix Michel Legrand. Parce qu'il faut qu'on se souvienne de ce nom, comme on se souvient de Jean Vigo, grâce au prix Jean Vigo, ou du prix Le Luc, grâce au prix De Luc. Et surtout, la musique de cinéma, c'est la musique, c'est la grande musique. Il faut être un grand musicien, un symphoniste, pour pouvoir écrire des musiques de cinéma. Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu en difficulté en ce moment, car les jeunes cinéastes, qui ne sont pas mélomanes, très souvent, on la trouille de prendre un grand compositeur de peur qu'il leur mange le film. C'est vrai que de certains grands films comme Jivago, Laurence d'Arabie, on se souvient surtout de la musique. Mais tant mieux ! C'est-à-dire, la musique et le cinéma sont deux arts très proches. Ce sont des durées, ce sont des choses qui passent comme ça. Donc il faut absolument que réunir ces deux grands arts. Et je n'étais pas seule, vous savez, à faire cette bataille pour soutenir les compositeurs de cinéma. Tavernier avait fait à la SACEM, il n'y a pas très longtemps, des conférences, et même au Festival de Cannes, pour s'indigner qu'il n'y ait pas de prix pour la musique au Festival de Cannes. Vous vous rendez compte? Je viens de le redire à Thierry Frémaux, parce que c'est scandaleux quand même. Et tout ça parce qu'il y a en ce moment une espèce de déperdition de la bonne musique. Alors, notre but, notre objectif avec ce prix, qui couronnera un compositeur de musique de film, c'est aussi d'encourager les jeunes à faire de la bonne musique. Du bon jazz, du bon tango, du bon gypsy, de la bonne musique classique. Michel, il me disait, je sais quand il y a de la musique et quand il n'y en a pas.
Oui, aujourd'hui, on fait des sons et pas de la musique.
Voilà. Il y a une espèce de brouhaha. Et je me plains les jeunes qui reçoivent dans leurs oreilles tout ce fracas qui n'est pas de la musique, qui sont des sons, qui sont des bruits. Et même le rap, c'est pas du... Par exemple, Michel détestait le rock, parce que ce truc binaire, boum 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 boum, il trouvait que c'était une réduction du jazz, que c'était une transformation, appauvrissement du jazz. Et donc, il faut que nous soyons une référence. C'est pas facile, hein, parce que l'époque n'est pas à ça.
Mais en même temps, on oublie une chose, c'est que les plus grands musiciens de variété, souvent, sont des prix de Rome. Prenez Marguerite Monod, elle a été prix de Rome à la Villa Médicis, et elle a écrit les plus belles chansons d'Edith Piaf, le monde entier connaît.
Et voilà. Alors Michel disait toujours ça. Commencez par faire du solfège. 12 ans de solfège, comme moi j'ai fait. Puis on verra après si vous êtes un musicien.
Oui. Et Michel Legrand, d'ailleurs, a refusé d'aller à la Villa Médicis, parce que Nadia Boulanger, qui était son professeur au conservatoire, a dit « Vous avez autre chose à faire ».
Alors à l'époque, il craignait que justement ça lui monte la tête un peu. Elle n'avait pas tort, parce que je pense que quand on est jeune et très très doué comme il était un surdoué, c'est qu'il cherchait le succès quand même. Et elle pensait que ça le mettrait dans une direction qui n'était pas la sienne. Donc instinctivement, même si elle a été un peu déçue qu'il fasse du jazz et des comédies musicales, parce qu'elle pensait qu'il serait Stravinsky, mais elle savait que le prix de Rome, ce n'était pas pour lui.
Alors le prix Michel Legrand, au départ, il y a une association qui a été créée, Michel Legrand pour la musique, que vous présidez, et donc il y a un jury qui a travaillé, un jury de personnalités et de professionnels du monde du cinéma et de la musique qui a pour décerner ce prix, Macha Meryl.
Alors, le président est Jacques Perrin.
C'est symbolique.
C'est formidable, parce que vraiment, lui, plus symbolique que lui et plus légitime que lui. Ensuite, il y a Xavier Beauvois, qui a travaillé avec lui, qui a fait ce film sur Chaplin qui s'appelle La rançon de la gloire. Il y a Mathilde Amet, Valérie Donzelli, j'adore cette cinéaste qui fait vraiment de jolis films, et Rosalie Varda, qui connaissait depuis l'enfance, Michel, Jean-Claude Petit, grand compositeur et chef d'orchestre, et Henri de Marquette, qui est un violoncelliste, qui a enregistré le seul concerto pour violoncelle que Michel ait écrit. Et tous ces gens ont un peu une philosophie commune, c'est celle justement de défendre la musique au cinéma.
Alors, dans ce prix Michel Legrand, il y a trois catégories, c'est des trophées qui vont les récompenser. Il y a le grand prix pour le compositeur international de l'année. Et c'est vrai que la musique de film, Michel Legrand l'a montré, il en a fait, je crois, 300, pas loin de 300.
Il en a fait beaucoup,
et,
oui.
Et tout s'est bien passé, sauf une fois, je crois, avec Joseph Losey, qui n'aimait pas sa partition, il y a eu un petit conflit entre
eux. C'est une histoire extraordinaire, je le raconte en deux mots. Losey lui fait entendre vaguement une musique qu'il aimerait pour Le Messager. Oui. Et Michel lui dit, écoute, au revoir, si c'est ça que tu veux. Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne ferai sûrement pas ça. Alors Losey lui a laissé carte blanche. Il a fait la musique, il est retourné à Londres la lui faire entendre, ils l'ont enregistré, et pendant tout l'enregistrement, Losey faisait, oh, aïe, 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 je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je ne veux pas, non, non, non. Alors, par honnêteté, Michel lui dit, écoute, fais-moi plaisir, tu me connais depuis longtemps, tu montes cette musique. Si ça ne te plaît pas, tu l'enlèves, d'accord. Plus de nouvelles. C'était en décembre, plus de nouvelles. Ni janvier, ni février, ni mars. Et en avril, Michel apprend que le film est au Festival de Cannes. Mais avec quelle musique? Et finalement, il a su que c'était sa musique. Il osait lui envoyer un grand télégramme en le félicitant. Mais Michel était très contrarié. Il lui dit, c'est pas comme ça qu'on traite ces musiciens, tu es un salopard et je ne ferai plus jamais de film avec lui. Il en a quand même fait.
Et puis, il y a surtout une musique, une mélodie qui lui a valu un Golden Globe, c'est celle-ci.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans
les Moulins de mon cœur, tout le monde l'a chanté aussi. On oublie que ça vient de l'affaire Thomas Crown.
Absolument, et que c'était un Oscar. Oscar pour la chanson
aussi. Il a eu trois Oscars quand même, Michel Legrand,
oui. Et aucun César.
Aucun. C'est bizarre. Hein.
C'est pas mal. Hein.
Et il a quitté les États-Unis parce que Piaf lui a dit un jour, les États-Unis, c'est bien d'y aller un petit peu, mais pas rester trop longtemps.
Elle avait raison. Elle était très formidable. Hein. Elle a guidé beaucoup de gens, hein, Edith Piaf. Et surtout, il avait appris l'anglais, mais il le parlait comme avec un accent à couper au couteau. Et il aimait garder cette tradition française d'être quand même the little French, the big Mike, mais quand même le petit froggy, la petite grenouille.
Alors ce Grand Prix, donc, vous avez sélectionné beaucoup de musique de films.
Et... On a eu du mal cette année parce que les films ne sont pas sortis. Oui. Quelques films vont être à Cannes. Alors nous avons dû enlever ceux qui ont été sélectionnés au Festival de Cannes parce qu'ils n'ont pas voulu nous donner les films à visionner. Mais enfin, quand même, il y a de très, très, très bons films et très bonne musique. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis surtout, on va donner un hommage chaque année à un très grand. Et cette année, c'est Gabriel Yared, qui est très ému d'être le premier à recevoir ce prix d'honneur, ce trophée d'honneur. Et alors le trophée, c'est ce que vous voyez sur mon t-shirt. C'est une petite grenouille, oui, qui joue du piano. Et il y a beaucoup de raisons, parce que Michel était un enfant. Et il collectionnait les petits sujets d'animaux qui jouent de la musique. Alors il y a des petites abeilles qui jouent de la trompette, il y a des chevaux qui jouent de la musique, des vaches. Et j'ai choisi cette petite grenouille. D'abord c'est la campagne, on va donner ça au milieu de son parc, au milieu des arbres qu'il aimait beaucoup. Et puis aussi, aux États-Unis, comme je vous dis, on l'appelait Froggy, la petite grenouille.
C'est logique. Alors donc, il y a le grand prix pour le musicien, il y a aussi un prix spectacle musical.
Alors, cette année, nous ne le donnerons pas, parce qu'il n'y a pas eu de spectacle.
Oui.
Alors, ça sera l'année prochaine. En revanche, nous donnons un prix à un émergent, à un jeune. Donc, ça sera le deuxième prix. On ne va donner que trois prix cette année, c'est-à-dire un trophée d'honneur, le grand prix et un prix à un nouveau musicien. Ce n'est pas une question d'âge, hein, parce qu'on peut décider de faire de la musique de cinéma à n'importe quel moment de la vie. Regardez Gabriel Yared, il a commencé à faire du cinéma très tardivement. Avant, il écrivait de la variété, il a écrit les chansons de Françoise Hardy et d'autres.
Beaucoup de choses, oui.
Voilà.
Mais alors, justement, ce spectacle musical que vous n'avez pas cette année, il a eu tellement d'importance dans la vie de Michel Legrand parce qu'il y a eu des comédies musicales en France et aux États-Unis, et puis ben, il y a eu la comédie musicale qui est devenue un film et que tout le monde connaît.
Voyageons de fille en fille, de petit nom de cœur en cœur, à tire d'elle, dans chaque port, à cœur perdu, dans chaque ville.
Donc, Noisette de Rochefort, les enfants d'aujourd'hui regardent ce film avec autant de passion que leurs aînés.
Et ils connaissent tout par cœur. Vous savez, quand on a fait Peau d'âne à Marigny l'année dernière, enfin, juste avant que Michel disparaisse, il a eu cette chance et cette joie de voir ça sur scène. Il y avait dans la salle des enfants de 5, 6, 10 ans. Ils connaissaient toutes les paroles par cœur et ils chantaient en même temps que les acteurs. Ça, c'est quand même une vertu formidable de cette musique. C'est un peu spécial, la musique de Michel Legrand. Ce n'est pas que de la musique. Ce sont aussi, comme ça, des incitations à s'aimer. À s'aimer les uns les autres et à vivre. C'est de la musique gourmande, la musique de Michel.
Ah, les Demoiselles de Rochefort ont fait le succès de la ville de Rochefort, alors qu'elles devaient au départ s'appeler les Demoiselles d'hier, parce que le film était prévu, je crois, dans le sud de la France.
Tout à fait. Alors, c'est mieux de Rochefort, c'est plus chic.
Alors, il se trouve que cette soirée va être transmise, non pas en public, circonstance oblige, mais sur les réseaux sociaux, ma chère
voilà.
Myril.
Je voulais déjà faire ce prix l'année dernière. Là, l'année dernière, c'était vraiment pas possible. Et cette année, je me suis dit, tant pis, on va quand même le faire, et il n'y aura pas de public, ça sera... Il y aura un petit concert, il y aura la cérémonie de remise du prix, et puis donc avec le suspense, le gagnant et tout ça. Et puis ensuite, un petit spectacle qui s'appelle Michel Forever, qui est un spectacle extraordinaire qu'a créé Stéphane Drouet-Toukaïev, qui est un metteur en scène de comédie musicale très talentueux. Il l'avait créé au Théâtre de Poche, et nous le reprenons, une partie de ce spectacle. Donc les gens regarderont cette soirée sur les réseaux sociaux. Écoutez, Jacques, il faut vivre avec son temps, et puis finalement, c'est pas plus mal, parce que ça ira dans le monde entier.
Exactement.
Ça va être vu au Japon, aux États-Unis, en Russie, donc je crois qu'il faut trouver les avantages à tout. Vous savez, c'est ça le secret du bonheur.
Et votre bonheur aussi, c'est quelques jours plus tard d'être la marraine à partir du 28 juin d'un festival qui, lui, va avoir lieu avec du public, le Festival du film russe à Paris, qui est la 7e édition. Et ça, c'est une chose à laquelle vous tenez beaucoup, ma chère Marie.
Ah, beaucoup. Parce que je trouve qu'on ne voit plus les films russes en France. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il n'y a plus de cinéma. Avant, il y en avait quelques-uns qui montraient tout le cinéma russe. Alors, il y a eu, comme un peu dans tous les pays européens, un creux. À un moment donné, comme ça, après la chute du mur, ils essayaient de copier le cinéma américain, c'était pas formidable. Mais il y a quand même maintenant une nouvelle génération avec Zviagintsev, avec comment il s'appelle celui qui a fait les noms. Enfin, peu importe, vous regarderez sur le programme, c'est sur le site Quand les Russes nous bouleversent, et c'est pendant 8 jours, dans 3 cinémas à Paris, le Balzac, le Max Linder et le Studio 28. Et aussi le Christine, vous savez, qui appartient à Isabelle Huppert et qui prend quelques films d'arrêt d'essai. Et c'est formidable parce que nous allons faire échanger les cinéastes français avec les cinéastes russes. Et vous savez, ils ont beaucoup de mal, hein, les Russes, parce qu'il y a une espèce de censure qui n'est pas... ils ont du mal à faire des films en Russie. Bon, le régime est ce qu'il est, comme vous savez, et politiquement, ils ouvrent pas... C'est pas mieux ni pire que pendant le communisme.
Il y a beaucoup de films qui sont tournés en Russie ou peu, finalement ?
Oui, ils font pas mal de films, enfin quand même, avec beaucoup de difficultés. Et alors, il y a plusieurs catégories. Il y a des films très très populaires que nous ne voyons pas, et puis les films qui sont faits un peu pour les festivals à l'étranger. Et nous faisons un hommage cette année à André Konchalovsky, avec qui j'ai tourné, qui est un grand ami, et nous avons tous ces films faits en Russie, des chefs-d'œuvre, dont le dernier, qui a été primé au Festival de Venise, qui s'appelle « Chers camarades », et qui est une vision du communisme vue aujourd'hui par les Russes, c'est vraiment intéressant.
Et vous célébrez en même temps, et c'est votre idée, ma chère Myril, le 100e anniversaire de l'arrivée des Russes à Paris.
Alors, ma soirée, bah, chaque année de ces festivals, j'ai une soirée que je pilote ou que je marraine, si je peux dire. Et cette année, j'ai choisi de raconter l'immigration des artistes russes en France il y a 100 ans. Et assez peu de gens savent que le cinéma français est né grâce aux Russes. Il y avait les ballets russes à l'opéra, et puis il y avait une compagnie qui s'appelait Albatros à Montreuil, avec des studios, et on faisait des films muets qui ont fait le tour du monde, avec un type qui était une star, qui s'appelait Mazjoukhin, qui est le frère du chanteur d'opéra, qui s'appelait Mazjoukhin aussi, et qui ont initié le cinéma français, parce que Carnet, Renoir étaient assistants de ces cinéastes. C'était toute cette génération d'émigration cultivée. On avait l'élite de la Russie qui a déboulé en France et qui choisissait la France parce qu'il parlait le français en général.
D'ailleurs, vous rendez hommage à Jean Renoir avec Les Bas-Fonds.
Voilà.
C'est le premier film qu'il ait tourné avec Gabin, qui évoque la Russie, mais d'un peu loin. Ça, voilà. C'est autre chose. Et c'est quelque chose de très important pour vous.
Et Le Brasier Ardent, qui est donc le film muet de Mazjoukhin, qui est un film qui a été un énorme, énorme succès à l'époque. Alors, il y a une histoire un petit peu triste. C'est que ce fameux Mazjoukhin, qui était une star énorme, il vivait au Ritz avec des Rolls-Royce, etc. Il est mort dans la misère, parce que quand Le Parlant est arrivé, il avait un accent terrible en français, et sa carrière s'est écroulée. Il faut avoir de la modestie hein, dans ces métiers.
Voilà, et de la modestie et de la, patience et, et de la passion, ce que vous avez. Donc il y a ce prix Michel Legrand, il y a ce festival du 28 juin au 5 juillet à Paris dans trois cinémas. Pour continuer ainsi, Macha Meryl, à vivre vos passions et à défendre ce que vous aimez.
J'allais vous dire la même chose, Jacques. S'il vous plaît, continuez à raconter de belles histoires comme vous savez le faire.
Ben, on va essayer tous les deux. Merci Macha Meryl, à bientôt.
À bientôt.
Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.